Pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai eu un ami très cher qui s'appelait Blaise et qui adorait réparer les machines. Tout ce qui lui tombait sous la main, il le démontait, il le remontait et il essayait de l'améliorer. Et pendant toute mon enfance et mon adolescence, je l'ai regardé faire. J'étais incapable de l'aider, bon, faut avouer que j'ai pas beaucoup essayé, alors je parlais. Et notre amitié fonctionnait très bien. Mais j'ai toujours eu la sensation que notre écart dans le rapport à la technique était le signe d'une différence plus profonde entre nous. Ensuite, en lisant L'éloge du carburateur de Matthew Crawford, j'ai compris. Lui, Crawford, l'intellectuel qui se fait réparateur de moto, le démontre dans tout son livre, se joue, dans la technique, un rapport au monde. J'ai tout de suite pensé à ça la première fois que j'ai rencontré Gaël Musquet il y a une dizaine d'années. À l'époque, Gaël était un jeune fonctionnaire du ministère de l'Équipement et il venait de cofonder OpenStreetMap France, une plateforme de cartographie ouverte et collaborative. Alors, il m'a raconté que pendant ses vacances, il retournait en Guadeloupe, dont il était originaire, avec un GPS et son vélo, et il cartographiait son île, arbre après arbre, poteau après poteau, chemin après chemin.
Xavier Delaporte.
Et ce qui m'a plu chez lui, comme chez mon ami Blaise, c'est qu'il avait l'air de faire à peu près ce qu'il voulait avec les machines et avec les ordinateurs en particulier. Il les trafiquait à sa guise, selon son usage. Alors, je crois qu'à l'époque, déjà, il se disait hacker éthique. Ça a l'air contradictoire comme nomination, hacker éthique, mais il y a toujours eu des hackers qui concevaient leur pratique comme devant servir le bien commun. On s'est perdu de vue quelques temps, mais j'ai continué à suivre de loin le parcours de Gaël. Il a longtemps été président et porte-parole d'OpenStreetMap France, puis il s'est lancé dans la gestion de crise, il s'est mis en disponibilité du fonctionnariat, on l'a vu participer à plein de projets, soutenir techniquement l'ONG SOS Méditerranée dans le sauvetage des naufragés, créer une association de hackers œuvrant pour la prévention des désastres climatiques, etc. J'ai senti comme un infléchissement dans sa trajectoire, une action guidée par le sentiment d'une catastrophe imminente, mais sans comprendre vraiment comment tout ce qu'il faisait se reliait. En fait, j'avais du mal à saisir la cohérence. Alors quand j'ai eu l'occasion de le revoir, c'était avec une hypothèse en tête. J'étais certain que ce serait en plongeant au cœur de son rapport à la technique que j'allais comprendre comment et pourquoi ce type avait l'air de se préparer au pire.
Le code a changé.
Donc, très logiquement, quand on s'est retrouvés l'un en face de l'autre, on a commencé par le début, son enfance en Guadeloupe, aux Abîmes, et je lui ai demandé s'il se souvenait de sa première rencontre avec les technos.
Mes premières voitures radiocommandées, mes premiers jouets électriques, je les cassais pour voir qu'est-ce qui faisait la lumière, qu'est-ce qui faisait de la musique. Mes parents le prenaient très mal parce qu'ils pensaient que je n'avais pas de respect pour le présent qu'ils venaient de m'offrir. Mais ce n'était pas du manque de respect, c'était de la curiosité.
Bon, tout ça, c'est pour moi d'un exotisme profond. Certes, il m'est arrivé enfant de péter des jouets, mais parce que je marchais dessus, pas pour savoir comment ils marchaient. Cela dit, en parlant à Gaël de techno, je pensais plus à des ordinateurs qu'à des jouets. Je précise donc ma question, et donc la rencontre avec les ordinateurs.
Mon père est un technophile, donc on a eu, au moment de la construction de notre maison, une installation d'une alarme. Tu vois, donc j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Mon père a beaucoup travaillé, il est un banquier, à la transmission et l'archivage des chèques. Et donc du coup, on est passé des microfiches à des disques durs, des disquettes, des bandes magnétiques. Donc si tu veux, j'ai vu tout ça déjà côté professionnel chez mon père.
Pendant que Gaël parle, je me rappelle l'épisode du Code à changer dans lequel Julien Lebotte racontait la trajectoire de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. C'est drôle, mais ça commençait presque de la même manière.
Son papa, très tôt, s'est intéressé aux ordinateurs, s'est dit que dans sa pratique médicale en tant que dentiste, l'informatique avait forcément des solutions à apporter. Et très vite, il a voulu numériser ses dossiers médicaux et ses fichiers pour ses patients. Il a impliqué le petit Zouk pour créer donc le Zouknet, qui est ce réseau informatique interne à la maison, qui relie à la fois les machines de la famille et les machines du cabinet. Et puis, voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort dans la transmission d'une certaine vision de l'informatique.
Bon, je ne vais pas faire à Gaël l'offense de le rapprocher de Zuckerberg, mais je me dis que c'est quand même marrant cette transmission d'un certain rapport à la techno qui passe par les pairs. Il faudrait s'intéresser plus profondément aux généalogies des geeks. Bon, tout ça c'est bien beau, mais Gaël n'a encore rien dit sur son premier ordinateur.
Mon premier ordi, c'est pas mon père qui me l'a offert, c'est dans la communauté religieuse où j'étais. C'était quelqu'un qui avait vu que j'étais passionné d'informatique et qui m'a dit, écoute, je te prête mon PC. C'était un X86 à l'époque, 80-86, qui n'avait même pas de disque dur, qui avait que des disquettes. Et j'ai passé des nuits entières parce que par rapport à la religion de mes parents, j'avais pas accès à grand chose en fait. Mes parents sont témoins de Jéhovah, donc j'avais pas droit aux anniversaires, j'avais pas droit de faire de la compétition sportive. Enfin, j'ai eu quand même pas mal de restrictions que je ne vivais pas mal à l'époque, mais ça m'a forcé à évidemment me tourner vers des choses dont on ne pourrait pas me priver.
Wow.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je ne savais pas du tout que les parents de Gaël étaient témoins de Jéhovah. Et alors ça m'intéresse beaucoup. Surtout le lien qu'il tisse immédiatement, sans que je lui demande rien, avec son rapport au techno. Donc là, il faut préciser. C'est quoi ces choses dont on ne pouvait pas le priver ?
Eh ben, c'était un ordinateur, c'était l'utilisation de MS-DOS à l'époque. Ça, c'était quand même en 1993. Et en 1996, on me fait découvrir Linux. Et là, c'est la révélation de ma vie. Je découvre que on est capable, avec ce système d'exploitation, contrairement à Windows, avec une ligne de commande, de bloquer l'ouverture d'un lecteur CD. Et ça, pour moi, c'était déjà un tour de force. C'est pas du hack, au sens où on l'entend aujourd'hui, mais c'était quand même quelque chose que moi, j'étais capable de faire et que les autres n'étaient pas capables de faire. Et donc, j'installe Linux sur, la machine familiale que mon père a acheté. Je me souviens toujours du prix de cet ordi, parce qu'on l'a négocié, je l'ai monté de mes mains. 13 000 francs. Et j'y ai installé en double boot. Donc, il y avait Windows 98 et Linux SUSE qui étaient installés dessus. Et je fais mes premières armes.
Franchement, ce que Gaël vient de dire, ça donne envie de faire son Lacan à deux balles. Sur son premier ordinateur, il y avait donc deux systèmes d'exploitation. Windows de Microsoft, propriétaire et fermé. Métaphore assez parfaite de sa communauté religieuse. Et de l'autre côté, Linux, système d'exploitation libre, fabriqué par une communauté ouverte. Alors ça, si c'est pas la métaphore parfaite de sa tentation du monde qui commençait sans doute à poindre en lui... C'est quand même merveilleux comment le logiciel vient redoubler ce qui était sans doute un tiraillement déjà existentiel. Parce qu'il le dit lui-même, il va vers les ordinateurs parce que c'est ce dont on ne peut pas le priver. Alors justement, qu'est-ce que Gaël trouve dans cette pratique qui contrebalance la contrainte imposée par la croyance familiale ?
Je me rends compte que je comprends la machine, que j'arrive à lui parler, que j'arrive à lui soutirer des informations et que ça appliqué à la recherche de corriger d'exercices de mécanique ou d'automatisme sur l'ordinateur de mon prof pour pouvoir anticiper les devoirs surveillés et fournir les bonnes réponses à tous mes copains de classe, ça allait être un avantage où j'allais pouvoir me faire pas mal de copains. Je pouvais pas avoir de copains parce que j'étais dans une communauté religieuse. Et donc, du coup, les autres enfants faisaient partie du monde. Et donc, du coup, j'étais un enfant à part. Et donc, le moyen pour moi de me faire accepter, c'était d'aider mes camarades de classe à avoir les bonnes réponses aux devoirs. Et donc, j'ai conçu mon premier programme informatique comme ça. C'était une disquette qui, à l'introduction dans un ordinateur, allait faire un listing de l'ensemble des fichiers qui étaient sur l'ordinateur, y compris les fichiers cachés, que je dépouillais en plus, que j'imprimais, et sur lesquels je stabilotais en fait les corrigés que j'allais ensuite récupérer en ciblant exactement les fichiers dont j'avais besoin pour fournir les bonnes réponses à mes potes.
Bon, c'est un peu la légende romantique du hacker en herbe, mais je prends, c'est beau, la socialisation par le piratage, c'est beau. Néanmoins, je voudrais quand même revenir sur cette histoire de témoins de Jéhovah. Je ne sais pas grand-chose de cette communauté, mais ce que je sais m'avait plutôt laissé penser que les témoins de Jéhovah avaient une certaine méfiance vis-à-vis de la modernité technique. Je demande donc à Gaël de m'expliquer les rapports des témoins de Jéhovah à la techno.
Alors, les témoins de Jéhovah acceptent la technologie, c'est même une religion très progressiste là-dessus. Ils ont leurs propres développeurs, ils ont très tôt numérisé la Bible, des applications, des CD-ROM. Quand d'ailleurs, je travaille sur, alors même si je suis plus témoin de Jéhovah, mais avec d'autres communautés religieuses, les juifs, les musulmans et les chrétiens, où on voit que la religion peut être aussi un vecteur de modernité et de progrès.
Oui, alors, ça peut paraître étrange ce que Gaël dit là, mais... En fait, je vois très bien à quoi il fait référence. Parce qu'en travaillant sur le numérique, je me suis aperçu que les différentes religions s'étaient emparées très très tôt de cet objet. pour les catholiques, c'est même régulièrement théorisé par le pape dans le discours qu'il donne chaque année, hein, le jour de la fête de Saint-François de Sales, en janvier. Et quand on lit ces discours à rebours, on s'aperçoit que le Vatican a tout de suite vu les bénéfices que pourraient tirer les catholiques d'une présence dans les réseaux. Internet, puis d'ailleurs les réseaux sociaux, hein, sont tout de suite conçus comme des espaces où il faut porter la parole de Dieu, comme partout ailleurs. Hein. Alors, ce goût pour la modernité technologique, il n'est donc pas contradictoire avec des valeurs qui, elles, peuvent être conservatrices, voire réactionnaires. Et ça, c'est valable pour toutes les religions. Et d'ailleurs, on l'a vu de manière très spectaculaire et extrême avec les djihadistes de l'État islamique. La technologie, elle est conçue par beaucoup de religions comme un simple véhicule, pas comme un corpus de valeurs. Bon, néanmoins, il y a au sein de l'univers techno des communautés technologiques qui ont des valeurs propres, comme celle du logiciel libre et aussi de certains hackers. Donc, je demande à Gaëlle si son adhésion à ces communautés est entrée à un moment en contradiction avec la religion de ses parents.
Le hacker, c'est aussi quelqu'un qui ne fait pas confiance. Le hacker, c'est celui qui doute. Et donc, comme tu doutes, tu vas chercher les informations toi-même, tu essaies de comprendre comment les choses fonctionnent. Et évidemment, ça m'a permis de me libérer de ces entraves, religieuses-là. Voilà.
C'est intéressant, ça, ce lien que Gaëlle établit entre son rapport particulier à la technologie, celui du hacking, dont il se revendique, hein, et sa sortie de la communauté des témoins de Jéhovah. Pour autant, en l'écoutant, je pressens que, même si Gaëlle est délivré de ses entraves religieuses, hein, comme il dit, il en reste quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais je suis certain que la suite de la discussion me le dira. En attendant, j'aimerais savoir si l'utilisation d'Internet lui a permis de rencontrer une sociabilité que ne lui permettait pas sa vie familiale. On sait bien, hein, qu'au milieu des années 90, bien avant les réseaux sociaux donc, il existait plein de communautés numériques dans l'Internet, bon, sur BBS par exemple, mais aussi sur des forums. Moi, je pense qu'il va me parler de ça, Gaël. Mais quand je lui pose la question, il embraye sur toute autre chose.
Le premier usage que je fais d'Internet, c'est ma calculatrice scientifique. Je regardais Canal+, qui venait d'arriver aussi en Guadeloupe, Jérôme Bonaldi, qui présente la TI-92 à nulle part ailleurs. Et je dis à mes parents que je veux ça comme calculatrice. Et c'est un ordinateur presque en soi. Très vite, beaucoup de mes camarades de classe achètent aussi cette calculatrice. Eh bien, je vais me faire plein de potes. Parce que sur Internet, j'ai pu télécharger sur différents forums des moyens de flasher ces calculatrices, de les modifier et d'y intégrer des images, des programmes, des antisèches. Je me retrouvais dans mon sac à dos à l'époque avec 10, 15 calculatrices qu'il fallait reprogrammer pour 10 francs. Je me faisais 100 francs comme ça par semaine en moyenne. Et ça a été ça, en fait, mon premier usage d'Internet.
Parenthèse. Me revient aussi un souvenir de Gruges. J'étais dans un horrible collège de garçons où on faisait régulièrement des devoirs sur table. On était alignés dans un gigantesque amphithéâtre qui descendait en pente vers une estrade où se tenait un pion qui nous surveillait vaguement. Et pendant une année entière, peut-être deux même, mon voisin de derrière m'a payé chaque semaine pour le laisser copier. Et avec les 10 balles qu'il me donnait, je me payais des magazines de cul. Que ce soit ce souvenir qui me revienne en écoutant Gaëlle parler de son hack de calculatrice, ça me fait prendre conscience que j'ai grandi vraiment dans un autre siècle. Fin de la parenthèse. Je me dis aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant qui commence à se dessiner dans la manière dont Gaëlle a utilisé l'informatique depuis le début. Il en fait tout de suite un usage très pratique. Socialiser, gruger. Il parle pas de passer des nuits sur des forums ou jouer des journées entières, ce que beaucoup de geeks faisaient à cet âge-là et qui reste dans leur mythologie. Lui, non. Lui, il réinvestit ses compétences techniques dans le réel, tout de suite. Et d'ailleurs, quand il a fallu décider d'une carrière, Gaël n'a pas choisi de devenir informaticien. Alors, je lui demande pourquoi.
En octobre 89, il y a le cyclone Hugo qui frappe la Guadeloupe. Ma maison familiale a à peine un an. Mon père a tout prévu, barricader les portes, et il nous rassure. Pendant l'œil du cyclone, la maison prend l'eau. On ne savait pas pourquoi à ce moment-là, mais en fait, au lever du soleil, on s'est rendu compte qu'il y avait un débris, une grande citerne d'eau en fait vide, mais qui avait volé et qui s'était écrasée sur l'avant en fait de ma maison. Et je me suis juré à ce moment-là que plus jamais ça n'arriverait. Et je me suis engagé en me disant, voilà, mon rôle, mon métier plus tard, ça sera de protéger les populations, en tout cas de les aider à se prémunir, se protéger de ces grandes catastrophes-là, à défaut d'être astrophysicien ou d'être astronome. Parce que ma passion scientifique initiale, c'est quand même l'astronomie. Mais sachant que je devrais de toute façon quitter mon île pour faire mes études supérieures, je me suis orienté vers un métier qui me permettrait de revenir. Et donc j'ai choisi la météo.
Comme il n'y a pas d'observatoire astronomique en Guadeloupe, Gaëlle choisit donc la météo. Le rêve étant de revenir un jour diriger un centre de météo dans la Caraïbe. En 2001, il part de la Guadeloupe, il arrive à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, où se trouve l'école d'ingénieurs qu'il forme à la météo. Et son truc à lui, les capteurs. Encore une fois, Gaëlle fait un choix qui est très exotique pour moi. Si je m'étais intéressé à la météo, je pense que j'aurais plutôt choisi la modélisation. Lui, non, ce sont les capteurs. Je lui demande pourquoi, encore une fois, il est attiré par la machine. Qu'est-ce qu'il trouve à la machine ?
Moi, quand je vois une machine, quand je vois une voiture, quand je vois un ordi, une antenne, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. J'ai envie de rentrer. Moi, je suis un bébé Matrix. Matrix, c'est un film qui m'a tellement marqué que je ressens une forme de plaisir à voir sur mon écran des chiffres et des lettres défiler sur l'état de ma machine, sur des données météo qui sont en train de défiler, les coordonnées vers lesquelles pointent mes télescopes. J'ai un certain bonheur à maîtriser pleinement mes machines. Et je ne suis pas satisfait quand une machine me résiste.
C'est drôle cette référence à Matrix. C'est drôle comment ce film, qui emprunte très explicitement à l'univers cyberpunk, devient en retour une référence forte de l'imaginaire hacker. Le hacking comme une forme d'accès à la vraie réalité.
Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Crois-tu en la destinée, Neo ?
Non.
Et pourquoi ?
Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie.
Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. Sais-tu exactement de quoi je parle ?
De la matrice.
En réécoutant ce passage ultra célèbre, je me rends compte à quel point le personnage de Neo est un messie moderne. Il est là pour sauver l'humanité comme une sorte de Jésus augmenté. C'est drôle comme tout se mêle chez Gaëlle. L'imaginaire hacker, l'imaginaire messianique, bon, très fort chez les hackers, mais qui est aussi central chez les témoins de Jéhovah dont il a été empreint dans son enfance, etc. Bref. Je soumets à Gaëlle mon hypothèse que ce qu'il guide, ce n'est pas la techno. Pour la techno, c'est pas de rester dans la machine, mais c'est de rendre la technologie au réel. Pourquoi est-ce que c'est si important pour lui ?
Il faut que ce soit concret. En fait, je suis pas déductif. En fait, j'ai eu beaucoup de mal en prépa parce que tout ce qui était abstrait est compliqué pour moi. Je suis plutôt inductif. Et donc, du coup, pour comprendre, j'ai besoin de toucher. Je suis kinesthésique. Il faut que je touche. Il faut que je parle à la machine.
Ça fait deux fois que Gaëlle dit ça. Parler avec la machine. Parler à la machine. Personnellement, je n'ai pas du tout accès à ce rapport-là avec les ordinateurs, mais pourquoi pas ? Alors, en guise de réinvestissement de l'informatique dans le réel, Gaëlle a participé à OpenStreetMap, dit OSM. OpenStreetMap, c'est un des plus beaux projets d'Internet. C'est une sorte de Wikipédia de la cartographie. À l'origine, il y a un jeune informaticien anglais du nom de Steve Coast, bon, c'est un nom prédestiné, constatant avec dépit que l'agence cartographique publique de son pays conserve à son profit les droits de reproduction des cartes, alors même qu'elle est financée par le contribuable, il décide de constituer une base de données géographiques libres, qui pourront être utilisées par qui veut pour en faire ce qu'il veut. Comme presque partout dans le monde, à l'exception notable des États-Unis, les données ne sont pas publiques, des gens vont donc alimenter ces bases en récoltant des traces GPS, les données GPS étant libres. Et OpenStreetMap est devenu un truc mais gigantesque. Quand j'ai rencontré Gaël pour la première fois, il venait de fonder avec d'autres la branche française d'OpenStreetMap. Mais comme Gaël ne cesse d'employer ce mot, je lui demande en quoi OpenStreetMap relève pour lui du hacking.
Ben, on est des développeurs, des technophiles, des citoyens qui ont envie de faire de la cartographie autrement. Donc avant, il fallait être un agent de l'État, bosser à l'IGN pour être reconnu en tant que cartographe. Et le hacking, pour moi, c'est un peu ça. C'est qu'on a détourné les ordinateurs, les bases de données, les écrans en fait de leur usage premier pour en faire un outil de cartographie de notre quotidien, de nos quartiers, etc. Donc c'est un environnement en plus qui est très lié puisque c'est quand même des communautés du logiciel libre derrière qui ont voulu aussi s'adonner à cette activité-là, dont la culture est profondément irriguée par des hackers.
Ça, je comprends bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans OpenStreetMap, quelque chose de plus subversif? Une volonté de perturber la représentation qu'on se fait habituellement du monde?
La perturber, non, mais être le plus fidèle à la réalité possible, c'est... L'arbre, il est là ou pas? Il y a un arbre ou pas? C'est un platane ou c'est un olivier? Mais il n'y a pas de débat, c'est factuel, OpenStreetMap.
Ouais, enfin, sauf que tu peux décider de faire une carte selon, bah, selon les religions, selon les langues, selon, tu vois, ou selon la manière dont se le représentent les autochtones, tu vois, qui ne sera pas celle dont se représente le monde, ceux qui ne sont pas autochtones. Donc tu peux avoir des conflits de représentation.
Et complètement, et c'est ce qui est intéressant, c'est que comme OpenStreetMap, ce n'est pas une carte, c'est une base de données qui sert à construire des cartes. Et il y a plusieurs manières de faire ce qu'on appelle un rendu. OpenStreetMap a permis d'avoir des centaines de rendus différents des mêmes territoires. Des langues, des alphabets différents, des couleurs différentes, des épaisseurs de traits différents. Et c'est en ça que ce projet, il est absolument fabuleux. C'est que tu as une possibilité d'expression, même si on a un rendu standard, on a quelques rendus standards sur le site officiel d'OpenStreetMap. Tu retrouves des centaines de sites différents qui représentent les choses différemment en fonction de l'angle que tu veux prendre.
Bon, c'est impossible d'avoir une idée précise de la multiplicité des cartes qui ont été créées grâce aux bases de données d'OpenStreetMap. Il faudrait fouiller tout le web pour ça. Mais bon, par exemple, on sait qu'il y a des cartes très précises pour les randonneurs, pour les cyclistes. On trouve même pour plein de territoires des cartes des lieux accessibles en fauteuil roulant. Mais il y a aussi un usage plus directement politique de la cartographie. En janvier 2010, a eu lieu à Haïti, on s'en souvient, un tremblement de terre qui a détruit en quelques heures toute une partie de l'île. Alors la Banque mondiale, avec d'autres acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, ont lancé une opération de secours, mais il y avait un problème. Il n'y avait aucun moyen de savoir quel était l'état réel de l'île, où intervenir d'abord, où placer des camps pour les survivants, comment acheminer les vivres, etc. Non seulement il n'y avait pas de carte précise avant le séisme, mais les administrations ayant énormément souffert, y compris humainement, il était impossible d'en dresser de nouvelles. Alors, des cartes satellites ont été mises à disposition et la communauté OpenStreetMap s'est mobilisée. Des centaines de personnes se sont partagées les photos satellites les plus récentes, ont entré les nouvelles données dans la base et ont fourni aux ONG et institutions sur place des cartes à jour et hyper précises de l'état de l'île. Gaël, il en parle souvent de ça. Il raconte même que certains contributeurs repéraient sur les photos satellites des messages de secours qui avaient été dessinés sur le sol par les survivants. Et ça, si je comprends bien, ça a été le point de départ d'une nouvelle vocation d'OpenStreetMap qui s'est mise à collaborer avec les autorités locales et internationales hein, dans plusieurs lieux du monde où des catastrophes brutales avaient lieu. Et j'ai l'impression que dans la trajectoire de Gaël, ça opère comme un basculement. La catastrophe, l'usage de la technologie pour la gestion d'une crise immédiate. Je me demande si le fait que tout ça se passe à Haïti d'ailleurs, voisine de la Guadeloupe, ne joue pas aussi un rôle dans ce rapport très concret aux technos. Et donc, je demande à Gaël, quel lien il y a entre tout ça?
En tant qu'insulaire, tu as une identité particulière. Ton monde est fini. Notre territoire, par définition, est bordé d'eau et donc ton territoire est fini. Donc, en tant que hacker insulaire, tu apprends très vite aussi les limites de ton monde, en fait, hein, de ton île. Et c'est pour ça que j'ai voulu et que j'ai ce tropisme de rendre concret très vite les choses sur lesquelles je travaille pour qu'elles soient utiles à mon peuple, à mon île, à mon territoire.
J'avoue que j'avais jamais vraiment réfléchi au fait que le rapport à la technologie pouvait avoir quelque chose à voir avec la géographie. Alors même qu'en fait, c'est assez logique. Je me souviens que le youtubeur politique Usul, qui officie depuis quelques années sur Mediapart, hein, m'en avait pourtant parlé, mais alors dans un tout autre contexte. Usul m'avait raconté comment lui, petit provincial militant et fan de politique, avait trouvé dans le YouTube des débuts le moyen de contrecarrer sa distance géographique au centre, de parler à d'autres que ses copains qu'il saoulait avec ses discours politiques. Il m'avait dit que tous les premiers youtubeurs politiques français étaient des types comme lui, des provinciaux excentrés. Il m'avait dit aussi que cette sociologie avait complètement changé quand le fait d'être youtubeur s'était professionnalisé. Alors, que Gaël revendique son état de hacker insulaire, c'est finalement assez logique. Et qu'il voit là la raison de son intérêt pour des technologies efficaces qui aident à combattre l'impression qu'on vit dans un monde fini et menacé, finalement aussi, c'est assez cohérent. Mais j'ai besoin de savoir à quelle technologie il pense vraiment quand il dit ça.
J'ai travaillé par exemple sur des marégraphes, donc sur la détection des niveaux d'eau pour la prévention des tsunamis. Je participais à des exercices, Carib Wave, qui est un exercice des Nations Unies sur la prévention des tsunamis. On a travaillé avec des universitaires pour le calcul des itinéraires d'évacuation, les sites refuges en cas de tsunami. Donc, tout ça, il faut le cartographier, il faut le photographier. Un exemple très concret. Mes enfants et moi, nous sommes retournés en Guadeloupe en 2019. Troisième jour, coupure d'eau. Ça, c'est un problème que j'ai depuis que je suis ado. Depuis que j'ai 13-14 ans, je vois des manifestations pour l'eau, l'eau polluée, l'eau trop chère, les coupures d'eau. Ça s'est aggravé. Et t'as encore des populations qui sont soumises à des pénuries d'eau potable. Et donc, je dis à mes enfants, j'ai des capteurs. On va mettre des capteurs de pression que j'avais, des capteurs hydrauliques de voiture pour les freins. Et j'aurais dit, vous savez quoi, on va pas peut-être régler le problème, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et je pose ces capteurs sur les robinets d'eau de ma petite sœur qui nous hébergeait. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il n'y a pas de pression. Et donc, il n'y a tellement pas de pression que si tu prends ta douche debout, ben, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'eau, mais si tu t'accroupis, tu as de l'eau. Et donc, ces enfants, si tu veux, ils sont témoins d'une forme d'effondrement. On se retrouvera un jour avec un problème d'eau. Et quand on lit en fait des ouvrages comme Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale, avoir voulu transposer les règles européennes, les règles hexagonales sur la Guadeloupe, on n'arrive pas en fait à rejoindre le niveau, si tu veux, d'infrastructure, avec évidemment de la corruption. On n'arrive pas à atteindre en fait le niveau de service minimal qu'on est en droit d'exiger aujourd'hui en 2021. Pendant toute une époque, on recommandait, on décourageait les Guadeloupéens à se doter de citernes parce que ça fragilisait la structure des bâtiments en cas de séisme. Aujourd'hui, on a des subventions pour pouvoir équiper les maisons de citernes d'eau pour récupérer l'eau pluviale. Et la solution, elle passe par l'eau de pluie, elle passe par la collecte, elle passe par des constructions différentes.
Passionnant aussi cette réappropriation locale de la technique, d'un point de vue décolonial. Pendant que Gaëlle me parle, j'ai l'impression que c'est pas simplement un autre rapport à la technologie qui se déploie, mais c'est aussi une autre géographie.
Mes voyages en Afrique ont été encore même plus révélateurs en fait de l'utilisation de ces nouvelles techno pour le bien commun.
Par exemple,
les drones. La Tanzanie et le Rwanda sont des terres d'innovation en matière de drones qu'on utilise pour envoyer du sang, des poches de sang pour des personnes qui ont besoin de transfusion, récupérer des analyses médicales, des prélèvements d'urine, de sel pour le suivi des diabètes, suivi des grossesses. La Tanzanie a créé la Resilience Academy pour faire des cadastres des inondations en Tanzanie. Le Niger, on a des personnes qui utilisent QGIS, OpenStreetMap, des GPS, des appareils photo pour pouvoir faire des cadastres des inondations aussi. Et c'est ça qui est hyper touchant, c'est de voir à la fois des Africains avec qui j'ai travaillé au début d'OpenStreetMap en leur fournissant des outils ou des méthodes et qui ont su s'approprier ces méthodes-là sur leurs problématiques, qui deviennent aujourd'hui pour moi en retour des sources d'inspiration pour les problématiques insulaires auxquelles sont confrontées la Guadeloupe, Mayotte, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, sur des phénomènes volcaniques hyper violent en Martinique, par exemple, on a besoin de suivre des coulées de boue, en fait, qui sont extrêmement destructrices et qui peuvent endommager très sérieusement les infrastructures. Il y en a à peu près tous les ans, tous les deux ans. Ces drones-là permettent de suivre, en fait, l'évolution des flancs du volcan. L'Aquarius, le bateau de sauvetage des SOS Méditerranée, pour moi, c'est aussi, au-delà de la question des réfugiés, une question prégnante de l'évacuation des îles. Saint-Vincent a eu une éruption volcanique il n'y a pas longtemps. C'est des milliers de personnes qu'il faut évacuer des îles. C'est des sujets qui vont se poser en Guadeloupe. Comment on va évacuer les 70 000, 80 000 personnes qui vivent sur les flancs de la Soufrière? Il va bien falloir les mettre quelque part, il va bien falloir les transporter.
Ok, donc, si je comprends bien, Gaëlle est en train de se préparer à la catastrophe. Celle qui touchera d'abord son île, mais celle qui touche déjà, hein, et toucheront sans doute plus encore dans les décennies qui viennent, les territoires sensibles de la Caraïbe. Là, je ne peux pas m'empêcher de repenser au début de notre discussion et de son enfance chez les Témoins de Jéhovah. Alors, je sais bien que la théorie de l'effondrement est en cours depuis plusieurs années et a donné lieu à ce courant d'idées qu'on nomme la collapsologie dans des milieux qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas, à proprement parler, millénaristes. Mais quand Gaëlle en parle, je me demande s'il ne se réunissent pas chez lui un constat partagé par beaucoup de gens sensibles à la question écolo, constat que nous courons à la catastrophe au sens littéral du terme, et aussi l'idée qu'on doit en passer par la catastrophe pour qu'advienne une rédemption, idée qui, si je ne m'abuse, est centrale chez les Témoins de Jéhovah. Alors, je ne veux pas du tout dire que Gaëlle est encore Témoin de Jéhovah sans le dire, hein, ou sans le savoir. Je me dis juste que, peut-être, on reste imprégné plus longtemps qu'on ne le pense par le bain spirituel dans lequel on a grandi. Mais bon, quoi qu'il en soit, se préparer à la catastrophe me semble être une entreprise gigantesque, qu'on peut aborder par mille aspects. Alors, je demande à Gaël quel est son point d'entrée à lui, quelle est la question qu'il se pose.
Qu'est-ce que d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres peuples ont mis en œuvre pour survivre? C'est ça aussi pour moi l'enjeu de mes voyages et de mes travaux aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre en cohérence une abondance certes technologique au service du bien commun, avec évidemment du bon sens, dépenser le moins d'énergie possible, le moins de temps possible pour pouvoir mettre en œuvre tout ça.
En écoutant Gaëlle, je comprends une chose. Bon, il me semble que la crise climatique engendre en gros trois rapports à la technologie. 1. La technophobie. Elle est tout à fait compréhensible quand on voit la part grandissante que prend l'informatique dans la consommation énergétique et dans la production de déchets polluants, etc. Le deuxième rapport, ce serait une technophilie un peu béate consistant à dire que c'est l'innovation technologique qui va nous sortir du problème. Ça, bon, c'est le raisonnement de ce qu'on appelle la géo-ingénierie et qui imagine des solutions techniques plus ou moins farfelues à la crise climatique. Et puis, il y a un troisième rapport qui serait celui de Gaëlle, mais que j'arrive pas très bien à définir.
Je suis un peu au milieu. En gros, je me dis, on ne peut pas comme continuer à dépenser et à utiliser 210 litres d'eau par jour et par français, parce qu'à un moment, la ressource, elle est finie, on le voit, hein, des sécheresses hyper violentes. Et de l'autre côté, la techno peut aider à gérer cette ressource. Donc, il faut un peu de tout. Et là, pour le vivre sur une île, où là, pour le coup, la question se pose vraiment de manière urgente, ce que je me dis, c'est que avec les pannes qu'on a eues récemment, par exemple, sur Galileo.
Là, Gaël, il fait sans doute référence à une panne qui a touché le système satellitaire européen Galileo, c'était en juillet 2019. 6 jours pendant lesquels l'Europe est redevenue dépendante du système américain GPS en termes de géolocalisation.
Comment on ferait pour se positionner? Comment on ferait pour se repérer? Comment on ferait pour communiquer? C'est pour ça que je suis devenu radioamateur. Mon premier réflexe aujourd'hui, c'est de me dire comment faisaient les anciens. Donc, quand on n'avait pas toutes ces technos-là, ils avaient bien des solutions, etc.
Justement, j'aimerais que Gaël me raconte un cas de solution trouvée par les anciens et qu'au passage, il m'explique pourquoi il est devenu radioamateur. En fait, pour dire vrai, je vois pas bien le rapport entre tout ça.
Gustave Ferrier, 1902. Le 8 mai 1902, la montagne Pelée entre en éruption et elle tue 30 000 Martiniquais, qui est à date encore aujourd'hui la plus grosse catastrophe naturelle française. L'État envoie Gustave Ferrier à l'époque de Paris, qui est un jeune capitaine, qui utilise à l'époque la 5G de l'époque, c'était la télégraphie sans fil. Et il utilise pour la première fois la radio entre la Guadeloupe, donc l'île, la presqu'île de Tartane, et la pointe de la Verdure à Pointe-à-Pitre. C'est le premier usage de la radio en situation de crise. Et quand il revient à Paris, après avoir perfectionné ses émetteurs en Martinique, il les pose, il les perfectionne ensuite sur la Tour Eiffel avec Gustave Eiffel. Et en 1909, quand il faut détruire la Tour Eiffel, elle n'est pas détruite. Et c'est Gustave Ferrier qui sauve la Tour Eiffel parce qu'elle est devenue stratégique sur la transmission du temps pour le calcul des longitudes des navires. Le Titanic coule et on se rend compte à quel point la radio, la télégraphie sans fil va devenir hyper importante pour localiser, pour communiquer, pour porter assistance aux populations qui sont en danger. Gustave Ferrier devient le patron du bureau des longitudes, qui encore aujourd'hui définit ce que c'est qu'une position géographique. Et ces travaux du bureau des longitudes donnent naissance à Navstar, qui a été le système de positionnement par satellite des Américains, qui a été pensé par la génération de mon grand-père, lancé par la génération de mon père dans les années 80, qui a donné naissance dans les années 2000 à la constellation GPS, qui a été libéralisée par George Bush père, et qui est devenu aujourd'hui un des principaux outils vecteurs d'OpenStreetMap.
Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion ?
Il a fallu une catastrophe naturelle pour avancer et mettre en œuvre ces technos-là au service du bien commun. Que ces travaux-là ont quand même permis, réussi de permettre de transmettre le temps, de nous positionner, de faire des économies d'énergie. Donc la technologie GPS est très intéressante. Mais on doit en tant qu'hacker en douter, la remettre en question, parce qu'un vent solaire qui balayerait toutes ces constellations spatiales nous ramènerait à 1902 où on ne savait pas encore se positionner avec des satellites.
Ok, mais comment il se prépare à revenir à un état antérieur de la technologie où on ne pourrait plus, par exemple, utiliser le GPS pour se positionner? Et au passage, Gaël m'a toujours pas expliqué pourquoi il était devenu radioamateur.
Je décide d'acheter un sextant et d'apprendre à me repérer comme faisaient les anciens. Je suis devenu radioamateur pour ça. Une fois que toutes les communications sont coupées, comment on continue à communiquer avec des radios analogiques? Qu'est-ce qu'on est capable? Et ça m'a touché quand j'ai passé ma première licence de radioamateur à Romans-sur-Isère. Le doyen de l'Union française des télégraphistes, qui avait 99 ans, qui me dit « T'es bien gentil avec tes radios, ton téléphone, mais si tu devais reconstruire de tes mains et de ton cerveau un outil pour communiquer, est-ce que tu saurais le faire ? Et là, j'ai bugué.
Depuis, Gaëlle a appris le morse et aussi à construire une radio analogique. C'est quand même un parcours étonnant que celui de Gaëlle Musquet. C'est un mec qui maîtrise plein de technologies hyper contemporaines, qui a plongé depuis tout petit dans l'informatique et Internet, mais qui aujourd'hui fait une sorte de remontée dans le temps pour apprendre à se passer de tout ce avec quoi il a grandi. Là, je lui fais part de mon étonnement.
Oui, parce qu'en fait, la technologie, elle est faillible. C'est ça où le hacking est énorme. C'est que, et c'est pour ça qu'Open Street Map, c'est magnifique aussi. C'est que c'est pas la techno en soi qui est belle. C'est le fait qu'on le fasse ensemble, qu'on fasse société, qu'on mette ça en commun. On peut détruire tous ces serveurs et compagnie, mais on saura le refaire avec nos mains parce qu'on sait, on est des artisans, en fait, de la cartographie. On est des artisans de la radio. On est des artisans de l'astronomie. Et cette culture populaire-là, en fait, on doit mettre un point d'honneur à la cultiver, pas de manière technophobique et de rejet binaire de la techno. Elle est belle, mais elle est faillible. L'électricité disparaît, on n'a plus tout ça.
C'est effectivement un truc qu'on oublie. Notre dépendance, au final, à cette vieille techno qu'est l'électricité. C'est drôle parce que, à la fois, l'électricité nous obsède, une obsession qui est matérialisée par notre souci constant d'avoir de la batterie dans nos smartphones, par exemple. Donc, à la fois, ça nous obsède, et en même temps, on oublie le caractère infrastructurel de cette dépendance. Le bon fonctionnement de toutes nos technologies tient à notre aptitude à produire de l'électricité. Point à la ligne. Ce que je trouve assez beau dans ce que dit Gaëlle, c'est qu'il invite à porter les savoirs techniques en nous-mêmes, à être les porteurs de savoirs techniques pour parer à la catastrophe quand il le faudra. Et ça me fait penser au personnage de Eugene dans la série The Walking Dead. Bon, alors que le monde est plein de zombies, quelques groupes humains qui ont survécu essayent de trouver une solution. Un de ces groupes est tombé sur un type qui se dit scientifique et qui dit qu'il a peut-être le moyen de sauver l'humanité. Donc il est hyper protégé, ce type, on essaye de l'emmener à Washington où il pourra résoudre ce problème, jusqu'au jour où il est obligé d'avouer qu'il a menti. Ça, c'est dans le 5e épisode de la 5e saison.
Not a scientist.
Je suis pas un scientifique.
I don't know how to stop
it. Je sais pas comment arrêter l'épidémie.
You are a scientist. I've seen the things that you can do.
Mais si, t'es un scientifique et j'ai vu ce que tu sais faire.
I just know things.
Je connais quelques trucs.
I know I'm smarter than most people.
Je sais que je suis plus intelligent que la moyenne.
Why?
Pourquoi?
Because I do believe that locale holds the strongest possibility for survival.
Parce que je suis convaincu que c'est l'endroit qui offre le meilleur potentiel de survie.
And I wanted to survive.
Et je voulais survivre.
People die.
Des gens sont morts.
Trying to get you here.
En essayant de t'emmener jusqu'ici.
I'm aware of that.
J'en suis conscient.
Again.
Je le répète.
I am smarter than you.
Je suis plus intelligent que vous.
You may want to leave
vous avez
me
peut-être
here.
Envie de me laisser ici, mais...
Hey, 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 hey.
Come on.
Get off of him.
C'est vraiment un moment clé de la série. On est presque à la moitié des 11 saisons et on comprend à ce moment-là qu'il n'y aura aucune résolution. Celui qui, par sa science, était le seul porteur d'un espoir, n'est plus porteur de rien. Bon, j'ai conscience d'étirer un peu ce que dit Gaëlle, mais je me demande quand même si c'est pas à ça qu'il pense, à la nécessité que nous nous fassions tous les porteurs d'un savoir technique, c'est ça ?
Collectif, c'est-à-dire que, je prends un exemple, on est un radioamateur pour 7000 habitants en France, à peu près. Aux États-Unis, c'est un pour 400. Donc tu vois bien que tu es beaucoup plus proche aux États-Unis d'une personne qui t'aidera à communiquer qu'en France. Et donc, quand on parle de culture du risque, c'est toutes ces composantes de la société qu'il faut arriver à additionner. Des gens qui savent faire du pain, des gens qui savent faire de l'assainissement d'eau, des gens qui savent distribuer de l'eau, qui savent capter de l'eau, des gens qui savent produire de l'énergie, des gens qui savent conduire, qui savent transporter. Je dis pas que tout le monde doit devenir radioamateur, même si ce serait cool. Je dis pas que tout le monde doit devenir contributeur OpenScape, même si ce serait cool. Mais qu'on ait un ratio de sachants, de pratiquants, de personnes qui font, suffisant pour qu'on puisse être résilient. La résilience, c'est aussi ça, c'est pouvoir compter les uns sur les autres le jour où ça a bardé.
Même si le terme de résilience a tendance à m'agacer, tant on l'emploie à tout va, j'avoue que j'aime assez la définition qu'en donne Gaëlle. La résilience ne serait pas une attitude passive et individuelle, une aptitude que chacun a en soi à se relever, mais une aptitude active et collective. Alors, vu comme ça, ça m'intéresse plus. Mais bon, à la fin de cette discussion, je me dis... à quel point je serais inutile si une catastrophe devait nous ramener à une ère pré-technologique. Bon, éventuellement, je pourrais faire un épisode du Code à changer, mais l'humanité aura sans doute d'autres chats à fouetter que de l'écouter. De toute façon, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de survivre à une catastrophe. Merci à Gaël Musquet, à la prise de son, c'était Rémi Sistiaga. Au mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Réalisation, Fanny Bohuon. C'était Le Code a changé, une série de podcasts qui vous est proposée par France Inter en partenariat avec Faber Novel.